France Inter.
Avec Leïla Kadoboudadji, avec Lisa Delmoitié, Mélodie Fontaine, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour, Mélodie.
Et nos invités Mélanie Bernier et Max Boublil.
Bonjour. Salut.
Bienvenue Mélanie, bienvenue Max.
Merci.
On va parler de votre film qui sortira le 8 mai, qui s'appelle Neuilly-Poissy. Mais avant tout ça, un petit blind test. Je sais que vous aimez les jeux,
oui.
vous aimez gagner,
oui.
vous aimez jouer, vous n'aimez pas
vous
perdre.
Vous êtes joueur.
Bref.
Daniel.
Ouais.
Elvis.
Ça a commencé ou pas? Ah, ça a commencé. D'accord. Bah, c'est une émission un peu foutoir, hein, pardon.
Mais moi, je sais qu'avec Leïla et Daniel, je suis sûre de perdre.
Mais non.
Mais non, oui. je joue à As.
Au blind test. Alors, la règle du jeu,
là, c'est encore le blind test ou pas? Je comprends pas cette émission. J'ai l'impression que je viens de rentrer dans une secte. Je ne comprends plus.
Ça, c'est la réponse.
C'est pas faux.
C'est la réponse. D'accord.
D'accord.
On laisse dérouler.
Il faut donner son prénom pour prendre la main, ce qui remplace une sorte de buzzer, si vous voulez.
D'accord.
Vous donnez votre prénom.
Ah, il faut que je donne moi-même mon propre prénom.
Si vous en souvenez, oui.
Ah, d'accord.
Après, vous pouvez dire Michel, mais ça marche pas.
Si vous en souvenez, c'est très méchant.
Et ensuite, une fois que la parole vous sera accordée, là, vous donnez la réponse.
D'accord, très bien. Waouh.
Et là.
Donc,
qui chante?
Daniel.
C'est pas les 10 commandements.
Daniel. ACDC.
Non.
Daniel Lévy.
Non plus.
Daniel Lévy.
Non plus.
Ça, c'est un
Daniel
truc,
Morin.
Un peu, genre, ça fait. Moi, je me vois.
Daniel Abissera, c'est mon film.
Non.
c'est une bande originale.
J'ai plein de Daniel.
Non, du tout. Écoutez bien.
Et qui d'autre comme Daniel?
Mais c'est pas Daniel, c'est tout.
C'est pas Daniel.
Non. Qu'est-ce que t'en
sais? Qui chante?
Bah ouais.
Leïla, c'est Johnny, Diego.
Oui.
Ah, je disais bien, je connaissais ce truc.
Ah voilà, Diego, Johnny, bien sûr. C'est l'intro la plus longue de la chanson française.
Il faut préciser, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film qui sortira le 8 mai, que nous sommes dans le milieu carcéral. C'est pour ça qu'il y a eu Jailhouse Rock.
Ok.
Et là, Diego,
il y a un thème, d'accord, autour de ce blind test. C'est très malin
nous
et très fin.
Nous servons la promotion de nos invités.
Ouais.
Daniel. Ah, les portes du pénitencier.
Mais Johnny,
c'est encore Jojo.
C'est les portes du pénitencier.
Oh, the house.
C'est Jojo.
Par contre, t'as pas dit ton prénom.
Ouais. Ouais, non, mais c'est très bizarre de dire son prénom avant chaque réponse. Max Boublil, les portes du pénitencier.
Ah, il gueulait quand même.
Il l'a envoyé. Hein.
Ah oui, il l'a envoyé.
Moi.
Oh, je suis obligé de vous raconter quand même une petite, anecdote.
Vas-y, Père Castor.
Sur Johnny, il a fait un duo avec John Bon Jovi dans Taratata. Et pendant les balances, il y avait vraiment la guerre de celui qui allait pousser les vues mètres le plus loin. Et puis Johnny laisse faire et ainsi de suite. Et juste avant l'émission, je vais le voir dans sa loge et il me dit, il va quand même pas me pousser dans les décibels. Je dis non, mais c'est super duo, tout va bien. Ouais, tout va bien. L'émission démarre et à la fin, mais ils ont tellement poussé tous les deux. Johnny a plié en deux John Bon Jovi et à la fin de l'émission, il est venu me voir, j'ai failli me faire mal. Mais j'ai adoré ce côté gamin qui veut gagner malgré tout.
Leïla. Trian.
Mais t'as pas dit ton prénom avant.
Si.
Leïla.
Ah mais c'est que tu ne connais pas son prénom.
Si,
mais
si j'avais pas entendu, pardon, j'avais pas entendu.
C'est ça.
Il s'appelle Trian.
Prison de Nantes.
La vraie question, c'est combien de bolets avant de connaître ce morceau?
Ouais.
Qui chante ça?
Lisa.
Oui.
Johnny Cash.
Joli.
Ouais.
Oh, le calme de Lisa.
Ah ouais.
Ouais, incroyable.
La série Poker Face, quoi.
Ah ouais.
Tu nous l'as un peu balancé à la gueule, quand même.
Ouais. For Some Prison Blues.
Saleté, ouais.
Je la connais pas assez, mais j'aurais dit un pourriture si je la connaissais mieux.
Ah ouais, c'est pas mal.
Dans une demi-heure, ça sortira.
Bon, attention, plus pointu.
Daniel.
Ah, je connais.
Renaud.
Non.
Non.
Ouais, la musique de Walker Texas Rangers.
Pardon. Ouais. T'as
pas tort. Qui ne sait jamais laisser enchaîner.
Oh.
Renaud, c'était pas con. Hein.
Hugo Frey. Ouais.
Non.
Carla Bruni.
Non.
Kinvé.
C'est un groupe.
Carla Bruni sans café.
C'est un groupe.
Non, c'est un mec seul. que vous connaissez tous.
Ah, Max Bernard Lavillier.
Non.
Pas loin.
Ah, tu veux dire qu'il y a du cheveu court, il y a de la boucle d'oreille.
Non, j'entends pas la voix.
Et la moustache.
Il y a de la moustache.
Maxime Le Forestier.
Non.
Je connais cette voix.
Oui. Ah, archi connu.
Vivant, mort.
Malheureusement mort.
Dalpèche.
Non.
Fugain, pas du tout.
Alors,
j'ai dit malheureusement mort. Fugain.
Pardon, mais c'est pas facile cette voix là.
Non, elle est pas facile.
Qu'est-ce qu'il a fait de connu?
Oula, mais non, si je te donne n'importe quel grand succès, ça sera trop facile.
C'est fou qu'on trouve pas en fait.
C'est un français?
C'est un acteur, réalisateur, auteur, compositeur.
Ah, il fait tout quoi.
Pygmalion.
Serge Gainsbourg.
Oui, exactement. Ah,
ouais. Non, c'est pas reconnu du tout, Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg. Au tout début de sa carrière, absolument.
Oui, quand il s'appelle cette voix.
La chanson du Forçat bien joué.
J'adore.
Ah ouais.
La chanson c'est joli.
Belle chanson de merde. Hein.
Ouais. Ça peut foutre un petit cafard. Quand même.
Alors, deux points pour Leïla, un point pour Daniel, un point pour Max Boublil, deux pour Lisa Delmoitié. Tout va se jouer là-dessus. Ça rapporte 3 points et la victoire.
Scheller.
Daniel, non.
Scheller.
Non plus.
Attends, deux secondes.
Mélanie, tu peux gagner là-dessus?
Non.
Si.
Si, c'est-à-dire que tu connais Mélanie, c'est quelqu'un proche de toi.
Tu connais.
C'est quelqu'un avec qui tu dînes.
Je sais pas.
En regardant le mur de la
Daniel.
Prison.
Daniel, tu tailles?
Oui.
Oh, bravo, Daniel.
Le mur de la prison d'en face, victoire de Daniel.
Inter, la bande originale avec Nagui et Leïla Kaddour.
Neuilly, Poissy, il faut situer ces deux villes pour ceux qui ne sont pas forcément parisiens. Une ville est considérée comme cossue, bourgeoise, chic, blindée.
Ouais. Et on parle de Neuilly.
Ouais, de Neuilly, Neuilly. Voilà. Et l'autre est...
C'est pas le même prix du mètre carré. Quoi.
Et l'endroit...
À son côté, non, Stéphane par contre, Plaza, là.
Par contre, il va vraiment se retrouver dans un mètre carré. Ouais. Poissy est l'endroit où se trouve une prison. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette prison, à Poissy?
Elle a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des prisons pour les courtes peines et des prisons pour les longues peines. Et apparemment, quand t'es en attente un peu de jugement, c'est une prison où tu vas. Ça s'appelle. Il y a un nom, il y a un terme technique que le réalisateur d'habitude donne que j'ai pas. Mais c'est en attendant de savoir vraiment
d'être jugé.
Peine.
C'est ça. Voilà, en tout cas, c'est un juge joué qui est dingue d'ailleurs, joué par Gérard Darmon, tellement drôle. Il a deux scènes dans le film, mais qui sont des scènes clés du film. Et quant à vous, Mélanie Bernier et Max Boublil, vous êtes un couple qui vivait donc très branché marque, très branché dépenses bourgeoises avec du personnel à la maison, l'appartement, la réussite sociale.
Oui, ils écoutent pas France Inter.
et vous êtes à la tête d'une chaîne de restaurants.
Enfin, mon mari. Moi,
vous,
non.
Pas du tout.
Non, moi je travaille pas. Moi, j'élève le fils unique. Enfin, c'est plutôt la nounou qui le fait. Je vais faire les ongles et je pense à ce que je pourrais faire de ma vie. Et voilà.
Mais la vie, quoi.
C'est ma vie au quotidien. Donc, c'est Max qui tient ses restaurants.
Oui. Et ces restaurants, hasard, sont installés à côté d'un distributeur de billets. Comme par hasard, le terminal de la carte bancaire ne fonctionne pas. Donc, allez retirer de l'argent liquide.
J'ai beaucoup de cousins dans la restauration et dans le commerce qui ont souvent CB en panne, qui est une petite entourloupe pour pouvoir être payé en espèces. C'est très connu. Oui. Dans le chantier, il n'y avait que des CB en panne, par exemple. oui, c'est très connu. Dans le monde de la moquette, par exemple, il y a beaucoup de CB et de la
restauration. C'est un truc crypté, le monde de la moquette.
Je sais pas. Dans le monde du revêtement de sol, tout ça. Oui.
Non, c'était premier degré.
Non, il n'y avait aucun deuxième degré là-dedans.
Et chercher un truc, genre.
Je sais pas.
Un sex shop.
Moi, papa.
Les années 70.
Ceux qui vendent des survêtements de sol.
Je sais pas.
Voilà, donc c'est un moyen de faire un peu des espèces.
Alors, Leïla, quand on dit. Leïla, quand on dit drugstore, c'est pas forcément.
Tu vois des sous-entendus partout.
J'ai entendu cette expression, le monde de la moquette.
Dans ma famille, les soirs, certains soirs, il y a du monde de la moquette.
Très bien. Donc, il a trouvé.
Il parle comme ça, si tu veux tout savoir. Okay, voilà.
Il a trouvé une combine pour avoir un maximum d'argent liquide qu'il entrepose chez lui et qu'il cache le plus possible. Il est balancé par l'un de ses collaborateurs.
Exactement.
La police débarque au moment où il est en train, en plus, de donner une enveloppe en cash à
un banquier
qui a lui accordé un nouveau prêt pour monter un nouveau restaurant à côté d'un nouveau distributeur.
Exactement. Bon, il fait des petites malversations, tout va bien pour lui, et du jour au lendemain, il va se retrouver pris par la police, et il va se faire envoyer dans la prison de Poissy. En fait, au début, il se lève dans un appartement de 300 mètres carrés avec une très belle femme, et le soir, il va se coucher dans une cellule de 9 mètres carrés avec deux co-détenus très spéciaux.
Avec de très beaux hommes.
De très beaux hommes, qui sont Steve Tientcheu et Malik Amraoui, qui sont magnifiques aussi.
Extrêmement drôle. Alors, il faut préciser que Mélanie, à ce moment-là, vous récupérez, vous, la boutique. C'est vous qui devenez la patronne.
C'est moi qui vais devoir essayer de sortir mon mari de prison, et puis surtout que...
Alors vous êtes au courant de rien, vous savez même pas qu'il y a des tonnes de liquide à la maison.
Elle est au courant de rien, mais comme bon, ça, elle a quand même beaucoup de Chanel et de Gucci à la maison, elle doit quand même un petit peu se
Gucci
douter.
Gucci-ot même.
Elle doit un petit peu quand même se douter que son mec est quand même un peu filou et qu'il y a quand même pas mal de cash qui circule à la maison. Mais oui, du jour au lendemain, elle, il va falloir qu'elle redresse la barre, elle ait sauvé la boîte, les salariés, et essayer de sortir son mari de prison.
Voir blanchir l'argent.
Elle est prête à tout.
Voilà, c'est ça. Je tiens juste à préciser auprès des employés de la maison Gucci que cette blague Gucci-Gucciotte est dans le film. Je ne serais jamais...
Ouais, exactement. J'ai pas envie de te griller.
Jamais pas.
on voit le client habillé.
Et je salue Christine.
T'inquiète pas, Nagui, ils vont pas se fâcher avec toi.
On n'avait pas les mêmes vêtements. Hein. On va acheter nos vêtements chez H&M. On est des gens simples.
Alors, dans ce film, souvent, il y a une blague qui revient, enfin une phrase qui revient dans ce film, c'est limite raciste ça. Et c'est vrai que vous jouez avec la frontière du racisme et du cliché sur le côté les juifs sont les voleurs, les arabes sont en prison, les
voilà,
juifs,
c'est clair au moins. Voilà,
l'antisémitisme est omniprésent en prison et il ne faut surtout pas, et c'est dans la bande-annonce, et Anne Charrier là aussi est à pleurer de rire en infirmière psychologue, où elle dit non, surtout ne dites pas en prison.
En fait, il est mal conseillé. C'est la psychologue de prison qui lui dit « Ah non, il ne faut pas dire que vous êtes juif. » Elle pense qu'il est musulman et on joue avec les clichés pour mieux les démonter ensuite, évidemment.
Oui, c'est ça. Mais c'est quand même, on sent que la ligne est fragile et tenue. Et c'est pour ça que souvent, il y a cette phrase « Mais c'est limite raciste que vous dites, c'est limite raciste. » C'est ce qui fait que, comme vous le dites vous-même, on ne peut pas vous taxer de racisme ou d'antisémitisme en voyant le film.
Non, parce que...
Ah, vous avez hésité.
Non, mais pas du tout. Non, parce que j'étais en train de me dire, si on pouvait avoir tout le public du RN en même temps, ça nous arrangerait. Non, mais... C'est quand même un bon pourcentage.
Ouais.
30% de la population.
On est désespérés à ce point.
Non, justement, le but, c'est une joke, évidemment. Le but, c'est de rire ensemble, évidemment. On a tous des a priori les uns sur les autres. Quand j'arrive là-bas, je suis très mal conseillé. Je me dis...
En prison,
je tombe sur une psychologue qui me dit il ne faut surtout pas dire que vous êtes juif. Alors tout de suite, il se fait passer pour un rebeu dans la prison et il va se faire démonter très vite.
Il se fait cramer parce qu'il
a que des mauvaises idées.
Il n'a pas les bons codes.
Mais non, il n'a pas les codes. Il paraît que les mecs qui arrivent en prison comme ça, qui pensent faire les malins, ils ne font que des erreurs. Et il y avait un des acteurs qui joue dans le film qui a vraiment fait un
ex-détenu.
Voilà, mais je ne voulais pas trop citer Gérard Jugnot. Mais voilà, c'est fait. Le mec de fourgon dans le 9-3. Non, c'est un autre, évidemment. Et il a fait de la zonze, GG. Et qui nous a dit que tout. Moi, à chaque fois, j'allais le voir et il nous disait non, mais ça, c'est crédible. Un mec qui vient de débarquer en prison, il va faire ces conneries-là. Il pense qu'il est malin et il va faire que des conneries et c'est ce que fait mon personnage. Et bien sûr, on joue des clichés, mais pour mieux les démonter après. Et c'est vraiment, et ce qui sort de toutes les projections, c'est que c'est un film qui parle de vraiment de fraternité et d'une bande de copains.
Oui, il y a une fin un peu positive et très fraternelle. Oui.
C'était fait sincèrement.
Mais pour le coup, ton personnage, au début, je le trouve pas malin, je le trouve lâche. Et c'est ce qui fait que c'est drôle.
Ah, c'est même un petit con. Il parle mal à tout le monde. Ouais.
Vraiment, c'est un personnage qui a une forme d'arrogance avec la vie, avec l'argent. Et finalement, il va se retrouver... face à lui-même. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. C'est un film sur la fraternité, mais aussi un petit peu sur comment on va apprendre à s'assumer, à se découvrir. tout ça dans la comédie, etc.
Et rentrer dans Laurent un tout petit peu.
Et rentrer un peu dans Laurent. Et lui, il a vraiment ce truc lâche qui est très très drôle, de pas assumer d'où il vient, qui il est, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et finalement, dans la prison, c'est de ça dont lui on veut le plus. Finalement,
d'avoir menti.
D'avoir menti.
Bien sûr, parce qu'en vrai, s'il avait dit, il risquait rien. Oui, c'est, il a des a priori,
c'est
tout le monde a des
le
a priori
raciste,
les uns sur les autres.
Le
c'est ça. Claudia Tagbo est extrêmement drôle aussi.
Très drôle.
Très touchant.
En patronne.
C'est Chico.
C'est Chico. Tout en Chico, etc. Chico. Ouais,
elle est matonne, il faut le dire.
Ouais. Voilà.
Parce que là, on rit entre...
Non, non, c'est vrai, c'est vrai. On va continuer à en parler jusqu'à midi, on a le temps. Mais d'abord, voici Lisa
Delpoitier.
Et vous, vous n'auriez pas fait un film comme ça, Lisa? C'est étonnant.
Non.
Pourquoi?
Voilà, c'est tout. Non, 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 je vais quand même développer. Non, j'aurais pas fait le film comme ça. Moi, j'ai toujours cru que je serais assez solide pour la prison. Mm-hmm. Vous voyez, je suis quand même costaud, quoi. Juste tant que j'ai mon téléphone. Hein, moi, je suis accro à mon téléphone. Mais le film Neuilly-Poissy m'a ouvert les yeux sur un problème de taille. J'ai un iPhone, mais un tout petit anus.
Oh non.
Il faut expliquer, il faut expliquer.
Si, bah, l'anus, tout le monde connaît.
Oui, non, il faut expliquer la vanne.
Non, non, va le faire.
D'après le film, donc, voilà. Pour acheminer un téléphone au milieu carcéral, c'est le seul canal possible.
Canal. Ouais.
Je me suis toujours demandé pourquoi les dealers avaient des 3310, mais je comprends maintenant. Le Nokia est plus compact que l'Apple. Hein. Mm. En plus, l'iPhone est tactile, c'est dangereux. Tu pètes trop fort, t'appelles ta mère. Alors, avec les touches du 3310, c'est quand même plus compliqué. Quoi. Faut déjà avoir mangé beaucoup de haricots pour finir une partie de Snake à la force de ton cul. Je m'excuse pour les auditeurs qui se désolent du niveau de mes blagues, mais le film parle de survie en prison, notamment grâce à un anus entraîné et d'entente compliquée entre arabes et juifs. Comprendrez donc que j'ai choisi de me concentrer sur le trou de balle. Celui-là, en tout cas. Mais c'est intéressant de vous voir, Max Boublil, vous pencher sur un sujet sensible. Vous jouez un juif magouilleur et vous jouez avec les clichés sur les juifs. C'est ça qui est cool avec les juifs. Hein. T'as pas besoin de te foutre de leur gueule, ils le font pour toi. C'est gratuit. Vous jouez avec les clichés sur les arabes aussi. C'est un bon moyen de convaincre les plus récalcitrants de l'intérêt de la diversité au cinéma, finalement. Hein, ça permet de continuer à déconner avec les clichés racistes. Les blancs peuvent peut-être plus moquer des juifs ou des arabes, mais laisse les juifs ou les arabes faire des films, ils le feront eux-mêmes. Voilà, ça se perpétue, c'est pas mal. Et votre personnage, au début, est assez insupportable quand même, il faut le dire. Hein, sa femme, jouée par vous, Mélanie Bernier, a beaucoup de patience. Moi, j'étais presque contente pour elle que son mari finisse en tôle. Il y a des maris, ils ont trop la confiance. Hein. Parfois, la seule façon qu'ils retrouvent la raison, c'est qu'ils aillent faire glisser un savon en prison. Voilà. Hein. Parce que c'est ça, hein, votre personnage, Max, à cause de ses magouilles, se retrouve en tôle et tout le monde lui dit de cacher sa judéité, de se méfier des Arabes, en gros. Un grand classique raciste. Il ne suffit pas d'être juif pour entendre ça, malheureusement. Moi aussi, vous savez, on m'a dit de me méfier de Leïla et Nagui avant d'arriver ici. Mais finalement, cette méfiance est infondée. Hein, vous trouvez des moyens de vous rapprocher. En même temps, les chiottes dans un coin de la cellule, ça rappelle vite à tous les co-détenus qu'au fond, on est tous humains. Hein. C'est aussi comme ça qu'on s'est rapprochés, là, Nagui et moi.
Ah oui,
en même temps, quand tu chies au compte-goutte, t'as le temps de créer du lien. Quoi. Hein, je rappelle que j'ai un petit anus. Et finalement,
on l'embrasse.
C'est pas possible que je l'ai choqué. Et finalement, c'est un bon modèle de vivre ensemble à la prison. Hein, toutes les origines sont représentées, quoi. Des blancs, des noirs, des arabes, des juifs, des latinos, des asiatiques. Apparemment, quand tu commets un crime, on t'enferme sur la page d'accueil de Pornhub, quoi. C'est incroyable. Et ça se mélange visiblement. Ils chient ensemble, ils mangent ensemble. On devrait envoyer tous les candidats d'extrême droite en prison, hein, qui se rendent compte qu'on est tous pareils au final.
C'est ça.
Je dis ça, j'ai jamais fait de prison. Enfin, je suis déjà allée au hammam, donc je sais ce que c'est de se doucher avec des arabes. Voilà. Quand je dis que j'ai jamais fait de prison, c'est pour le moment, hein, parce qu'avec les horreurs que je viens de dire, j'ai la police du bon goût qui veut m'envoyer en tôle, donc je dois vous laisser, j'ai un sphincter à dilater.
Merci.
Et elle va sur scène.
Ah ouais.
À la nouvelle scène le jeudi soir. Bravo. Tous les jeudis soirs, Lisa Delmoitier.
Mélanie Bernier, Max Boublil, Steve Tiencheux, Malik.
C'est dur d'enchaîner après la nuit.
J'ai l'habitude maintenant, tu sais. Malik Amraoui, Julien Nasseri, Anne Bouvier, Walid Afkir, Claudia Tagbo, Éric Delcourt, Souleymane Belmioud, Nabil Akrouti, Kevin Dedonne, Gérard Jugnot, Ludovic Bertillon, Gérard Darmon, Gaël Lorillon, Manoël Gaillard, Adrien Jolivet, Florence Maninet, Bruce Dombolo. Il y a un monde fou dans ce film. Et c'est ça aussi. Et ça joue dans tous les sens. Ça joue avec tous les clichés. Et c'est ça qui est extrêmement drôle parce qu'on les voit venir et ça fait quand même rire. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans ce jeu où tout est écrit? C'est le premier film, hein, je crois, de
Grégory Boudboulou. Ouais. Écoute, oui, non, il nous a laissé vachement libre. Il nous a laissé
c'est plein de vannes qui sont maintenant dans le film et dans la bande-annonce, quelques scènes de comédie qui sont vraiment des impros qu'il nous a laissé faire. Et ça, c'était c'est très agréable parce que parfois, il n'y a pas plus drôle que ce qu'on va trouver en impro. Par moments, c'était trop, mais il a saisi les bons trucs qu'on a parce qu'avec Malik et Steve, ça n'arrêtait pas les impros, ça n'arrêtait pas. Ils étaient voilà, c'est ça partait. Ouais, vraiment, c'était la colonie de vacances, quoi.
au milieu de ce monde de mecs, parce qu'il y a au niveau casting, il y a beaucoup plus d'hommes que de filles. Il faut tirer son épingle du jeu, ne pas tomber aussi dans les clichés, parce que là aussi, elle est un peu un cliché, votre personnage, Mélanie.
Mais c'était un peu le risque de ce film et dès le départ
écueil évité, mais c'était pas
oui,
simple.
Oui, c'est ça. Mais moi, je crois que c'est ce qui me plaisait aussi dans ce projet. Quand je l'ai lu, parce que je le trouvais assez audacieux, du coup, d'oser parler de ça, surtout en ce moment, alors encore plus depuis le 7 octobre et tout ce qui se passe. Mais justement, je me disais, oh là là, on va sur un sujet tellement touchy dans une période où, malgré tout, on a tous beaucoup de mal à s'exprimer.
Et que la moindre vanne est prise comme une agression, quel que soit le côté qui le fait.
Exactement, ouais. Alors que peut-être que tous, dans notre quotidien, on peut en faire et sentir libre, et puis dès qu'on doit réellement en parler, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, j'aimais bien ce danger-là, cet enjeu-là, en tout cas. Et je trouvais que s'il était réussi, du coup, ça pouvait faire un très bon film. Et je trouve que c'est le cas.
Et faire une comédie, ça,
c'est la meilleure manière d'en parler. C'est un kiff.
Et de le jouer.
Et de le jouer. Bah, moi, ce personnage, quand même, j'avoue que je me suis bien amusée. Déjà, je me suis inspirée de plein de nanas que j'avais. Ouais. Donc, du coup, c'est ça, je crois, qui m'a le plus, c'est que Lisa Abissera, je la ressentais, je voyais ce que je voulais en faire. Et puis oui, dans les clichés, oui, il y a du cliché, mais les clichés sont toujours sur quelque chose d'un peu vrai. Hein. C'est comme les rumeurs.
Oh oui, c'est une caricature.
Aussi, c'est une caricature.
C'est de grossir le trait d'une réalité.
Et la comédie, c'est aussi, ça part aussi souvent de ça. Donc moi, je me suis beaucoup amusée, même si j'étais un peu sur le fil rouge aussi pendant tout le film. Je me disais, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que ça va pas être too much?
Comment Grégory Boudboul réussit à faire un tel casting avec des guests, avec vous à vous convaincre quand c'est un premier film? Il arrive, il est convaincant, ce sont des rendez-vous qui se font.
C'est des rendez-vous, c'est-à-dire qu'on imaginait, par exemple, pour le juge, on voulait Gérard Darmon depuis très longtemps, parce que Gérard Darmon, c'est la cité de la peur, parce que c'est plein de films cultes et qu'on adore Gérard Darmon. Donc j'ai été faire des déjeuners avec Gérard Darmon pour lui dire, vas-y, viens, s'il te plaît,
fais le juge. Avec lui
Gérard, et puis moi, je jouais tous les soirs avec lui, donc c'était un peu plus facile.
C'est vous qui l'avez convaincu.
Ouais, bien sûr, et Gérard Jugnot, pareil.
Ça lui va tellement bien, le rôle du juge.
Mais il est magnifique. Et surtout, c'est un petit fudge qui tombe sur un juge fudge et qui se dit, c'est bon, ça va passer crème, vendredi soir je fais Shabbat en famille, et le mec, et c'est souvent ce qui se passe, pour avoir eu pas mal d'histoires de fudge qui sont tombées sur des juges fudge, et au contraire ils se disent, bah non, je vais pas faire de...
Il faut que je prouve mon intégrité
et je vais lui montrer, donc je vais être encore plus sévère que d'habitude, donc il se fait laminer pour juste un peu d'espèce, quoi.
Non, il se fait laminer pour son attitude.
Oui,
parce que c'est parce qu'il lui parle comme un vendeur de merguez.
Parce qu'il n'est pas prêt de comprendre à ce moment-là que de toute façon, s'il est libéré à nouveau, il va recommencer. Donc il a besoin d'une petite leçon.
Oui, c'est ça. Ouais. Il lui met un petit taquet dans les dents, comme on dit dans le métier.
Le gamin, il joue tellement bien aussi. Il est trop mignon.
Je l'adore, Roman.
Ouais, voilà.
Mais un cœur, cet enfant. J'ai adoré travailler avec lui.
Non, mais il est Roman Angèle. Hein, c'est ça, son nom de famille, c'est Angèle.
Mais je ne connais pas son nom de famille, je ne l'appelais pas par son nom de famille.
C'est Félix hein, dans le film, c'est Roman Angèle. Il est trop chou.
Ouais, il a une tête mignonne.
Mais oui,
il a un petit tic qui sort la langue tout le temps comme ça.
Mais surtout, lui, vous allez le protéger, les parents le protègent en disant, mais papa est parti en voyage, papa n'est pas en prison, quoi.
Il croit que je suis en Afrique. Tu as dit que j'étais en Afrique dans le film,
c'est ça.
Et je lui dis, c'est pas un peu raciste, je suis en prison, tu lui dis que je suis en Afrique.
C'est ça. Voilà. Et chaque fois qu'il y a une vanne comme ça, où on se dit, c'est quand même chaud. Immédiatement derrière, dans le film, il est dit, c'est un peu raciste.
Bien sûr, il faut la désamorcer, quoi.
C'est ça.
Évidemment.
Ça fonctionne, en tout cas, c'est familial.
Y a beaucoup d'enfants qui viennent voir le film. Le mec est vraiment très large. On dirait un homme politique, frère. On dirait un mec qui se présente aux élections. Il y a beaucoup. Non, c'est vrai, c'est des familles qui viennent. Et c'est beau de voir, je vais dire un truc cliché, mais c'est beau de voir des salles où t'as justement beaucoup de Français, des chrétiens, des juifs, des arabes qui rient ensemble. Et vraiment, dans la tournée d'avant-première, c'est ce qui se passe. Et ça fait plaisir quand même, ça fait du bien en cette période. Allez,
ça c'est la musique du film.
Exact.
Oui, je me disais aussi.
Ouais, je me disais, ça me dit quelque chose.
Alors, est-ce que vous êtes capable de reconnaître à quel moment on est dans le film si je vous passe la musique?
Ouais, bah oui.
Ok, par exemple ça.
C'est pas,
c'est pas quand je suis. Si, 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 c'est dans le film. C'est quand je suis au mitard, non?
Bah d'accord.
Non. C'est pas quand je suis au mitard,
ça? C'est un piège.
La douche?
C'est avec Gérard Juniau.
C'est avec Gérard. Ah bah c'est le, oui, la scène dans le, avec le rabbin quoi.
Exactement.
C'est ouais. Le repas.
Ça c'est quand on est en train de faire
du sport.
Non, c'est quand on est dans la cour, la première visite de la cour.
Non plus.
Je me fais voler les chaussures.
Non.
Ah putain, vous êtes trop fort.
C'est la douche.
C'est la douche. Mmh. Exact. C'est la douche. Exact.
Où il essaie de se protéger avec sa brosse à dents.
Oui,
c'est dans la bande annonce.
Mais c'est parce qu'il y a plein de clichés sur la prison. On a tous plein de clichés. On pense qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans les douches. Et en fait, bah non. Bah,
Anne Charlie, le personnage d'Anne Charlie.
Ouais, bah, je suis déçu. Bah ouais, parce que ça a démonté plein de clichés. C'est assez sympa. On voulait vraiment un film qui donne envie aux gens d'aller en prison.
Oui,
et je pense qu'on l'a réussi.
Ça s'appelle Neuilly-Poissy. Ça sort le 8 mai au cinéma. Tout de suite, voici Mélodie.
Problème, Nagui Mélody n'est pas là aujourd'hui.
Ah non.
Non. Bah ouais. Mais attention, on accueille notre médium astrologue, mais néanmoins un poète, Jean-Denis Grosju.
Pénis de chair, pénis de sang.
Êtes,
là,
Jean-Denis, hein, vous êtes à l'antenne.
Ah, hein, ça a commencé, ouais, l'émission a commencé. Mais vous, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé là. Allez,
allez-y,
y va.
C'est bon.
Ah, on n'est pas là pour enfiler des perles. Mmh, ouais. Vous avez déjà essayé, vous, d'enfiler des perles?
Non, pas récemment.
Ah, moi, une fois, pas deux, merci. Hein. Je me suis blessé, on m'avait pas dit qu'il fallait retirer le coquillage. Allez, vous laisse un peu de temps et un gaviscon pour la digérer.
Ça y est, ça y est.
Alors, j'en étais où? Je perds le fil, ça me rappelle ma dernière fissure. Alors, et, ah, le fil, ah oui, c'est avril. Et en avril, c'est l'exomile. Allez, l'horoscope, capricorne, bête à corne, pétez un coup les capricornes. On n'a qu'une vie, heureusement d'ailleurs, parce que vous êtes chiant comme du cidre. Cancer, vous vous sentez pousser des ailes, ce n'est absolument pas normal. Consultez avant de vous retrouver transformé en mouche ou je sais pas quoi. Hein. Scorpion,
oui.
Je prédis un gros succès. Vous avez déjà fait de la radio?
Non.
Verseau, vous êtes une taupe. Hein? Ah non, vous êtes taupe. Vous êtes top. Ah pardon, vous êtes top. Gémeaux, votre nouveau t-shirt vous gratte les tétés. Pensez à crémer les rustines. Oh. Lion, soyez la meilleure version de vous-même. C'est pas génial, mais à défaut. Sagittaire, si vous êtes en couple, profitez-en tant que c'est possible. Si vous êtes célibataire, hein, ou une Sagittaire risque de se libérer prochainement. Soyez attentif ou peu regardant. Poisson, vous tenterez une variante de votre tête de mouton poêlé et ce sera un succès. C'est bien la seule chose que vous réussirez cette semaine. Vierge, mon Dany, il est où mon Dany?
J'ai pas bougé, Jean-Denis, je suis là.
Ah oui, bah, si je peux te conseiller, ne bouge pas trop. Hein.
Ça va.
Alors, taureau, les plaisirs de la chair n'ont plus de limite pour vous. Vous êtes une bête sauvage. Va falloir vous mettre en cage et vous n'attendez que ça. Bélier, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Hélas, vous avez une minable paire de deux. Balance, tout ce que vous touchez se transforme en or. Mettez des gants quand vous faites vos besoins. Allez, on se revoit en mai, les cocos. Soyez prudents, certains plus que d'autres. Gros bisous.
Merci Jean-Denis.
Mélodie Fontaine
sur scène
n'est pas à la radio, mais elle est sur scène.
À Saint-Riquier, les 20 et 21 juin, Festival d'Avignon, du 3 au 21 juillet.
Alors, la fameuse question « peut-on rire de tout ?» est posée régulièrement. La question que nous poserons à Catherine Escrive, qui est journaliste et qui travaille aussi sur
la rubrique
cinéma au Pèlerin. Est-ce qu'on peut rire des religions et le rire sur les religions au cinéma? Évidemment, les Rabbi Jacob et autres, on l'évoquera avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, la musique dans vos vies, Mélanie Bernier et Max Boublil. On va commencer en 99-2000. Mélanie, vous écoutiez?
Ah ouais, la Rousseau, carrément. Allez!
Évidemment. Et il se passait quoi dans la vie de Mélanie Bernier à ce moment-là, 99-2000?
Moi, mon nom, Mélanie, c'est votre première apparition à l'écran. C'est un téléfilm de Patrice Martineau.
Oui.
Vous êtes toute jeune?
Toute jeune. Oui, vraiment, je suis toute jeune. J'ai mon papa qui m'a...
Mineur, il faut le dire.
Mineur, sur le tournage. Et sauf qu'on tourne dans un bus, donc en fait, il est resté toute la journée à attendre dans un hangar pendant que moi, je tournais dans Paris dans le bus. Donc voilà, ouais, mais j'étais vraiment, c'est presque une silhouette, quoi.
Ouais, c'est ça, mais c'est un beau premier souvenir.
Oui. Bah oui, forcément.
Un papa inquiet. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui a pu se passer dans le cinéma pour les actrices, pour les acteurs. Quand on est mineur, quand on est une femme ou un garçon, peu importe, puisqu'on sait maintenant que les prédateurs s'attaquent à tout le monde. Est-ce qu'il était très inquiet, très protecteur? Est-ce que
vous... Non, j'ai l'impression qu'ils étaient inquiets, vigilants, présents, mais que parce que je suis provinciale en plus, donc du coup quand je venais à Paris, c'était...
Vous êtes dans le sud, hein, à Grasse.
Oui, mais j'ai grandi vraiment en Touraine, donc okay. Du coup.
Ah bah ça va.
Elle était géniale cette intervention.
Mais non, mais du coup, oui, c'était. Bah, je me souviens quand je prenais le train toute seule, on avait en plus à l'époque, vous savez, on n'avait pas le maps sur le téléphone, ouais. Donc on avait vraiment
pas de smartphone surtout.
Pas de smartphone, etc. Ouais. Donc oui, mais je ne dirais pas inquiet, c'était plus. Je ne sais pas si aujourd'hui ils le referaient, ce serait intéressant que je leur pose la question, mais ils ont toujours fait que pour qu'il y ait un adulte qui vienne me récupérer, etc. Mais aujourd'hui, ils me posent parfois des questions, ils
me disent. Aucun directeur de casting, aucun réalisateur, non. Personne ne vous a agressé.
Non. Moi, j'ai plus souffert parfois d'être une jeune personne et d'avoir plutôt souffert d'un harcèlement un peu moral du fait d'être une fille jeune, infantilisée, un peu de mépris sur les tournages, de sentir des classes un peu différentes, comme ça, de cette hiérarchie très forte, que de harcèlement sexuel, etc. Ou ça, je sais pas, j'ai toujours réussi un petit peu à le gérer, à avoir le... Enfin, je dis pas que
j'ai
pas géré, j'ai eu de la chance de ça. Mais par contre, souvent...
Ouais, ou la force de faire comprendre que...
Oui, mais ça voudrait dire que moi j'ai la force et que d'autres ne l'aient pas. Donc
c'est compliqué comme discours.
Ouais, je pourrais vraiment pas dire ça. C'est vraiment plus... j'ai réussi à passer entre les mailles du filet. Mais ce dont j'ai plus souffert, c'est d'attitude. Vraiment, de comédien, parfois de réalisateur, parfois de réalisatrice aussi. Hein, c'est vraiment tout le monde. Et je me suis sentie parfois humiliée. Vraiment.
Max Boublil, en 2000, vous écoutiez...
J'ai fait que des choix très cool.
Donc pas sincère.
Non, sincère. Non, mais je pense qu'en musique,
je
suis zéro faute. Il travaille son image. Non, mais voilà, bah Eminem.
Bah évidemment.
Eminem, attends,
bah moi
Eminem,
aussi,
moi c'était
Eminem
une révolution, Eminem.
Évidemment.
Non mais Eminem, c'était tellement cool, c'était tellement la révolution. Moi j'ai eu deux révolutions en musique, j'ai eu Nirvana quand j'avais 12-13 ans et après Eminem. Pour moi Eminem c'était fou, c'était le mec qui était, c'était un mauvais élève, c'était le mec qui disait des grossièretés dans ses clips, en même temps qui rappait de ouf, qui était associé à Dr. Dre. Pour moi Eminem c'est une révolution.
Et qui avait un
flow incroyable. Un flow de malade, enfin c'est moi, je rêvais d'être un gars comme ça.
Mais à cette époque-là, on vous voit dans plein de téléfilm Police District, c'est sur M6. Ouais. Il y a Sous le Soleil, il y a Navarro.
Que des trucs cool.
Navarro, j'écoute.
Donc Sous le Soleil.
Sous le Soleil, bien
il
sûr, j'ai fait du Sous le Soleil. Regarde comme elle est contente.
Ouais, j'adore.
Ah, ouais, Sous le Soleil, j'en ai fait. Je faisais Aldo, le fils d'un mafieux.
Non, t'as pas vu longtemps. Hein.
Mécanicien de bateau. Ouais. Et tout était
allait...
pas crédible
et
dans
ça
cette histoire.
Avec toutes ces filles en maillot de bain en permanence.
Ouais, bah écoute, moi j'étais très. Oui. Pourquoi? Non, j'étais très prude. Ouais, ça se dit.
Oui,
non, j'étais pas, j'étais pas dragueur, tout ça. Toujours, c'est vrai, elle a raison. Toujours.
En tout cas, vous enchaînez à ce moment-là les téléfilms. Vous présentez une émission aussi qui s'appelle American Studio.
Mais non.
Ah oui, je m'en souvenais même
sur
plus.
Sur Série Club.
Oui, c'est vrai. C'est
vous
vrai.
Avez fait animateur
J'ai fait animateur. Ouais,
ah,
en fait,
vous
faisais des
prêt
petits
à
sketchs. Ah bah, j'étais prêt à tout, frère. J'ai fait de la pub pour du jambon. Bah oui, il fallait bosser. Bien sûr que j'étais prêt à tout, évidemment. Quand tu commences, t'es prêt à tout.
Tu
as faim.
Non mais tomber si bas animateur quand même,
c'est vrai que c'est tombé très bas.
Ça me fait de la peine, franchement ça me touche. 2006, Mélanie Bernier, vous écoutiez. La solaire Ayo, elle évoque quoi pour vous cette chanson d'Ayo? Qui n'est pas la plus connue d'ailleurs des titres.
Oui, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est les chansons, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours quelque chose de très intellectuel, mais principalement, et moi cette chanson, elle me rappelle une période de ma vie un peu particulière. En fait, je crois que je ne l'écoutais pas réellement en 2006. Je crois que je l'écoutais après.
Ok.
Je sais pas pourquoi, j'ai découvert cette chanson.
Émotionnellement, elle vous procure quel sentiment?
Parce que j'avais perdu. Ben, elle me rend triste un peu. Je sais pas, sa voix, elle me touche. Il y a un truc un peu nostalgique. Là, j'ai pas envie de pleurer, mais voilà, c'est plutôt une chanson qui me rend un peu triste.
Pourtant, à cette époque-là, vous tournez avec Jean-Jacques Haneau dans Sa Majesté Minor et José Garcia, et dont vous parlez en des termes très élogieux, tous les deux.
Bah oui, c'est une aventure incroyable pour moi d'avoir fait ce film.
Avec Vincent Cassel aussi.
Avec Vincent Cassel, il y avait un casting de dingue. J'étais à poil toute la journée pendant 3 mois. On tournait en Espagne.
À poil toute la journée, c'est-à-dire?
Bah, j'avais beaucoup de mal avec ça. Vêtements. C'était difficile pour moi. En fait, c'était l'antiquité pré-homérique.
En fait,
on était en toge toute la journée. C'était un film très, très spécial.
Tout le monde était à poil. Hein. Enfin,
tout le monde était à poil. Pas que moi, je tournais face à des cochons, j'étais jalouse d'une truie, enfin, c'était complètement.
Ça va relancer la vocation.
C'est très. Je non, sais mais... pas, ça donne vraiment envie d'aller voir le film.
Non, mais j'ai pas besoin de donner envie de non, voir ce sûr. Film, parce que ce film, pour moi, je me souviens que quand j'ai décroché le casting, il a vraiment fait partie un peu, je pense, après de comment j'ai avancé dans ce métier, parce que quand j'ai décroché ce casting, il avait vu vraiment tellement d'actrices. Je crois qu'il y avait même Monica Bellucci à un moment donné qui avait été pressentie, et c'est moi qui décroche, quoi. C'était incroyable. Et tout le monde me disait, non, mais toi, tu vas voir, là, ça y est, ta carrière est lancée. J'étais toute jeune. Je me suis retrouvée placardée partout dans Paris, sur les colonnes Maurice et tout. Et tout le monde me prédisait, voilà, que ça y est, ça allait être lancé.
L'explosion.
Et le film a été mais détesté, lâché.
José Garcia nous en a parlé la dernière fois, d'ailleurs, en disant extrêmement... le plaisir qu'il avait eu à le faire et en même temps la déception par rapport au succès.
Très douloureux. Je me souviens que j'avais même pas été prénominée au César en meilleur espoir, alors que
c'était attendu.
C'était attendu, et puis ils avaient dit mais non, le film est tellement pas aimé, etc. Et pour moi, je pense que je suis rentrée vraiment dans ce métier comme ça, et ça m'a permis de vivre beaucoup plus sereinement. Après, ça m'a tout de suite endurcie de comprendre un peu le jour de ta chance ou pas ta chance, ou c'est ton moment, c'est pas ton moment.
Non, mais ça ne dépend pas que de vous. C'est
mais moi, ça ne dépendait pas de moi. Moi, personne voilà, m'attendait dans ce film-là. C'est juste que ce film, s'il avait marché, si les gens l'avaient aimé, aurait pu tout changer. C'est ce qu'on prédisait. Et quelque part, ça n'a pas été le cas, mais je pense que j'en ai fait peut-être une force aussi.
Mieux, voilà. En 2006-2007, Max Boublil, vous écoutiez les Strokes.
Évidemment. Encore un bon choix.
Et il se passe quoi en 2006, Leïla, pour Max Boublil?
Eh bien, vous rencontrez Anthony Marciano. Avec lui, vous écrivez un one-man show, une chanson, vous tournez des clips, et il y a quand même un phénomène qui vient vous entourer à ce moment-là.
Exactement. Ouais. On a commencé... En fait, je l'ai connu en 2005. C'était mon petit cousin qui était copain avec son petit frère, et je l'ai rencontré en 2005. On s'est tout de suite très bien entendu. Il travaillait dans la musique, et c'est...
Faut dire qu'avec le fils de Jean-Jacques Goldman...
Oui, c'était mon copain aussi, c'est la même bande.
Voilà,
le fils à Jean-Jacques.
Ils ont Michael Goldman,
et un autre qui s'appelle Sevan Barsikian. Et ils ont fondé une société. C'est eux qui produisaient mes premiers spectacles, et c'est avec cette bande-là qu'on a eu l'idée des premières chansons, des premiers spectacles, et avec qui on a écrit plein de films avec Anthony et tout après. Mais voilà, on s'est rencontrés d'ailleurs en parlant des Strokes. C'est marrant parce que c'était un groupe qu'on adorait tous les deux. Moi, j'avais les cheveux longs, je me prenais un peu pour le gars des Strokes. On commençait à sortir, c'était une époque pleine de... Voilà, on était très très jeunes, quoi, et on était... Et c'est drôle que cette bande de potes, bah, on ait grandi ensemble, et on est tous fait notre voie dans ce métier, en tout cas.
Et démarrer avec ce soir tu vas prendre, c'est-à-dire démarrer avec une chanson, une parodie
qui aujourd'hui ne pourrait plus exister.
Alors c'est ça, c'est exactement.
Je suis pas sûr. Je sais pas. On m'a posé la question, mais en tous les cas, démarrer avec un gros sketch. Mais comme moi j'étais inconnu, enfin je tournais dans des pubs, des téléfilms, j'étais en galère. Fallait que je fasse connaître. J'avais envie de faire un one man show que j'écrivais depuis 2005. J'étais jeune. J'étais
prêt. Ce soir tu vas prendre. Mais... tu vas prendre comme si je sortais.
Il fallait que ça marche, quoi.
Mais ça a marché.
Et ça a marché tout de suite.
Non, ça serait plus possible aujourd'hui.
Ouais.
Non, je sais pas.
Ouais, moi, je trouve que ce serait compliqué. Là, on est gêné, par exemple, d'écouter cette chanson.
Bah, t'es dégueulasse. Je la fais toujours dans mes spectacles. Non, mais... et les gens, et c'est beaucoup des filles qui les reprennent avec des briquettes.
Elle était en train de la chanter.
Ouais, bien sûr.
Et j'aime les moches aussi, on pourrait plus la chanter.
Non, j'aime les moches, c'est mignon.
Oui, ça, c'est mignon.
Et ça a été emparé par J'aime les moches et tout ça. C'était en.
c'est plus les jeunes qui sont emparés de toutes ces chansons. Ouais, c'était des hymnes de cours de récré, quoi. Mais moi, je suis très fier de cette période. Je suis très content d'avoir fait ces chansons. Et quand j'ai des mecs de 30, 40 ans qui viennent me voir et qui me disent « on a grandi avec vos chansons », ça me fait chaud au cœur. J'ai l'impression d'être Bernard Minet un peu.
En 2011, Mélanie Bernier, vous écoutiez... Adèle, et pour Mélanie Bernier, que se passait-il, Leïla ?
C'est la délicatesse des frères Funkinos avec Audrey Tautou, le tournage de ce film où vous travaillez pour la première fois avec Audrey Tautou. Ouais.
Oui.
Ouais. C'était un beau moment ?
Oui.
Si,
c'était super de faire la délicatesse parce que David Funkinos, déjà en fait c'est Stéphane est directeur de casting mais il m'avait toujours casté vu beaucoup de fois en essai et David était donc déjà romancier, il avait écrit la délicatesse et dans la première version de la délicatesse il avait déjà mis, et dans le rôle de Chloé, parfois il fait des petites annotations dans ses romans, on pourrait imaginer Mélanie Bernier. Et quand il a fait le film, il m'a proposé le rôle, donc c'était quand même proposé, en plus j'avais même pas passé d'essai pour le coup. Et donc c'est oui, un très bon souvenir.
Ouais, et un joli film. Très joli film.
Avec la musique d'Émilie Simon, que nous saluons au passage. À l'époque, Max, vous écoutiez... Snoop Dogg.
Exactement. C'est un remix. Normalement, ça part plus. C'est du Guetta derrière. Il y a des synthés derrière. Ah, il est remixé, celui-là. Normalement, il y a des synthés de David Guetta derrière qui font partir la chanson.
On retrouve l'animateur.
Et c'est l'époque de Max chanteur.
Ouais.
Donc de Bernard Minet avec Ce soir tu vas prendre, J'aime les moches, Suzanne Boyle aussi.
Ouais, j'ai vu ta mère sur Tchatroulette, Classe Gentil, il y en a plein.
Attends, il y avait ça aussi.
Ah voilà.
Suzanne Boyle. Qui était une gagnante de incroyable talent, ou
ouais,
ça,
c'est
ça. Le code britannique.
Anglais.
Qui écrivait les chansons ?
C'est Anthony et moi.
Dans quelles circonstances vous écriviez ces chansons ?
Bon, on cherchait des bonnes blagues à faire et à un moment, il fallait alimenter une machine, un monstre qu'on avait mis en place, qui était la chanson du mois, qui était tellement attendue par les jeunes, quoi, et les cours de
le
lycée,
réseau.
Les cours de fac, et les facs et tout. Ouais, sur les réseaux, c'était trop gros. Et il fallait à chaque fois qu'on trouve des vannes, qu'on produise les chansons, qu'on fasse les clips, qu'on mette des vannes dans les clips, qu'on produise les clips, qu'on monte les clips, tout ça en un mois. À un moment, c'était genre, on dormait plus, quoi.
La référence, c'était quoi ? C'était les parodies des Inconnus, de Charlie et Lulu, quand ils faisaient les Top Boys et tout ça.
Bien sûr, on avait tout ça en référence. Et c'est surtout de faire des bonnes vannes en musique. Fatal Bazooka. Et les Lonely Island de l'autre côté arrivés.
Après les premiers c'était vraiment les Inconnus avec
C'était moi les Inconnus, j'étais fan quand j'étais petit, je parlais qu'en Inconnu. salut, tu vas bien. Moi j'étais fan des Inconnus,
évidemment.
C'était un truc de malade.
Évidemment.
Et voilà.
Après il y a eu l'eau samouille, le feu samouille
bien
sûr,
des Top Boys. Et il y a eu après Fatal Bazooka. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait les Lonely Island qui faisaient des parodies.
Verlan Jankovic qui avait parodié Beat It de Michael Jackson.
Exactement.
Ils
étaient avec Justin Timberlake, tout ça. Donc,
pourquoi il y en a moins d'ailleurs de parodies musicales?
Parce que c'est très compliqué à faire. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'ingéniosité. Le mec, il s'envoie que des fleurs. Ça demande d'être un génie, tout simplement, et d'avoir l'oreille musicale et d'être bon dans tout.
Apparemment, vous ne l'êtes plus parce que vous en faites plus.
Mais non, mais c'est trop. Ouais, c'est trop. Vraiment, les gens. Les gens aimeraient bien. Après, t'as toujours peur de refaire et de décevoir. Puis aujourd'hui, j'ai un peu plus de 40 ans.
Ouais,
donc,
le public a un peu changé. Vous êtes un peu plus loin de ce public aussi.
Ouais, mais je pense qu'ils ont vieilli quand même et ils aimeraient bien. Mais tu vas forcément un peu décevoir. Et oui, t'as raison, le public a un peu changé. Puis il faut savoir passer à autre chose par moment.
Ouais. Non, mais quand je pose la question, c'est pas spécialement pourquoi vous ne le faites plus. C'est pourquoi ça existe moins.
Mais parce que c'est très compliqué à faire.
Alors c'est... que avec un ordinateur, on peut retrouver tous les sons possibles et imaginables.
Oui,
avec,
c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais il y en a. Il y a de la chanson parodique sur TikTok, tout ça. Et puis maintenant, il y a tellement chez les rappeurs, pardon.
C'est plus des vannes de 30-40 secondes.
Mais maintenant, souvent, les chansons sont presque déjà des parodies. En fait, les chansons qu'on écoute à la radio, c'est ça aussi le problème. Tu dis qu'est-ce que je vais parodier, c'est déjà une blague, quoi.
On parle de qui? Jules?
Non, je vais pas me faire ennemi avec les rappeurs. Je les aime tous.
On va revenir au film donc Neuilly Poissy que vous portez, Mélanie Bernier, Max Boublil, film de Grégory Boutboul, son premier film qui sortira le 8 mai au cinéma et qui joue sur tous ces codes autour de la religion. Catherine Escrive nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Journaliste, chef de rubrique cinéma au Pèlerin. La religion, c'est finalement un point de départ de beaucoup de comédies au cinéma. On a en référence Rabbi Jacob, ça n'a pas été la seule.
Oui, depuis longtemps. On a commencé avec Don Camillo, Fernandel, qui interprétait ce curé italien face aux mères communistes. Ensuite, Rabbi Jacob. Et en venant ici, en préparant là pour venir, je me suis rendu compte que Rabbi Jacob est sorti 12 jours après le début de la guerre du Kippour. C'est dire combien ce film renvoyait à une actualité.
Oui, ça devait être une cata, comme dit Léa.
Voilà. Alors, finalement, non, parce que le film a été un succès, mais ça a généré une prise d'otage.
J'allais vous en parler, de l'attaché de presse, la femme de l'attaché de presse, ou un truc comme ça, qui a fait une prise d'otage pour pas que le film sorte.
Exactement, et ça a été assez peu connu.
Excusez-moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, pardon.
Une femme a voulu interdire la sortie de ce film. Et a pris en otage
un avion. Non, mais c'est incroyable.
Et en prenant en otage cet avion, elle a été ensuite abattue. Et ça s'est très peu su. Cette dame était qui, quoi? C'était la femme d'un publicitaire.
Ou d'un attaché de presse.
Non,
voilà. Mais c'était un scandale. Oui. Funès avait peur d'être taxé d'antisémite.
Exactement.
Enfin, c'était un scandale. Ça sort en pleine guerre des six jours. C'est un truc de fou.
12 jours après le début de la guerre du Kippour.
De Kippour, donc 73, d'accord. Pas les six jours.
J'avais oublié la prise d'otage.
Voilà, moi j'ai appris en venant ici.
Donc voilà, c'est bizarre que la mémoire collective n'ait pas retenu cette tension-là.
C'est vrai que Gérard Houry affirmait vouloir pacifier un petit peu, puisque déjà les conflits au Moyen-Orient étaient bien présents, et son but c'était quand même d'évoquer tout ça à travers la comédie. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que finalement toutes ces comédies sur les religions, comme la vôtre, c'est le reflet de ce qui nous habite, nous, dans la société, dont on peut pas vraiment parler, parce qu'on vit dans un état laïque et que c'est compliqué souvent, parce qu'on est très souvent dans la confrontation. Et pour une fois, quand un cinéaste se met à parler de religion et qu'il nous fait rire avec ça, eh ben on désamorce, on se détend, on rit ensemble.
Daniel Thompson a souvent raconté d'abord qu'elle aurait du mal à refaire Rabbi Jacob aujourd'hui, mais qu'à l'époque, elle avait demandé au grand rabbin d'être le consultant, entre guillemets, du film. Il faut une caution pour aller sur ce genre de terrain.
Alors, je ne sais pas s'il faut une caution, mais je pense qu'il faut quand même bien connaître les rites. Je pense par exemple que Gad Elmaleh, qui a fait Reste un peu l'année dernière ou l'année d'avant, qui connaît effectivement très bien tous les codes de la religion juive, mais aussi qui connaît très bien les catholiques, a réussi aussi son film.
Il est devenu catholique.
Je rassure toute la communauté.
Il fait ce qu'il veut.
Mais ce qui était intéressant avec lui, c'est qu'il a su, comme il connaît extrêmement bien sa propre religion, évidemment, il a su aller vers les nœuds à désamorcer. Il a su aller vers la question de la conversion, qui est quand même assez tabou, dans toutes les religions d'ailleurs, et vers la question de sa fascination pour la Vierge Marie. Dans le film, par exemple, sa maman découvre une Vierge Marie dans la valise de son fils, de Gad, et pour toucher la Vierge, elle enfile des gants. Des gants de cuisine, en fait, parce qu'il y a vraiment
Par respect.
Voilà.
Non, parce que, genre, il ne faut pas toucher.
Voilà, il ne faut pas toucher.
Ah, c'est au contraire, danger, quoi.
Ouais. Les juifs ont peur de rentrer dans les églises.
Voilà.
Ils ont peur, c'est marrant.
Et c'est parce qu'un cinéaste connaît bien ses tabous qu'il arrive aussi à les désamorcer et à nous détendre. Et vous disiez tout à l'heure que c'est important qu'on voit ces films en salle. C'est ça, moi, que je voulais vous dire. C'est que le premier, qu'est-ce que j'ai vu au bon Dieu, je l'ai vu en salle. Et je pense
qu'est-ce
que c'est une expérience.
Une vision. Elle a une vision.
Je l'ai vu en salle et je pense que c'est très important de se retrouver assis à côté de gens dont on ne connaît pas les convictions, de voir ces films en salle, de rire ensemble, parce que ça nous relie en fait.
Exactement. Alors qu'est-ce qui change sur le sujet de la religion? Parce que l'humour, quand
quand on entend, on peut plus rire de rien. Si on fait une vanne sur les gros, il faut derrière dire j'ai été moi-même un gros. Si on fait une vanne sur les Arabes, il faut dire mais je vous rappelle que je suis né à tel endroit. Comme s'il fallait un alibi, une excuse, la carte qui permette de faire des vannes, même sur des choses aussi simples et pas forcément segmentantes que sur la calvitie. On est obligé de dire moi-même je perds mes cheveux et bing, je peux aller faire une vanne. Ça devient fatigant.
C'est vrai que c'est fatigant.
Surtout la calvitie. Arrêtez avec les cheveux. Systématiquement s'excuser. Est-ce que sur la religion, là aussi, pour faire un film qui se moque d'une religion, il faut incarner, porter cette religion en disant je peux me permettre de faire des vannes parce que moi-même je suis de cette religion?
Moi je crois pas. Je crois que si on connaît déjà, c'est plutôt bien. Après, j'ai fait un petit sondage à la rédaction, dans la rédaction dans laquelle je travaille. Je suis allée voir les journalistes et je leur ai demandé quelles seraient les limites. Et en fait, ça m'a rassurée parce qu'on est quand même dans une rédaction assez libérale. Tout le monde m'a dit, mais il n'y a pas de limite en fait. On vit dans un état pluraliste, un état libéral. Un artiste, finalement, il a le droit de dire tout ce qu'il veut.
Non, la limite, il faut que ça soit drôle et que ça blesse personne.
Voilà. Il a même le droit de blasphémer. C'est ce qu'avaient fait les Monty Python, les Monty Python dans la vie de Brian.
Monty Python, c'est un cocktail.
Ça s'est passé comment, le petit déjeuner? Le Monty Python, vous connaissez bien Leïla, c'est ça? T'as déjeuné ensemble?
On l'a pas dit, mais... et en fait, je pense que la seule chose importante, c'est que le croyant qui se sent blessé en face, qui se sent atteint, qui se sent heurté, et la possibilité de répondre à l'artiste. Sure. Mais en fait, un artiste, pourquoi lui interdire de s'exprimer? Voilà, mais cette condition, elle est importante, et c'est ce qui est ressorti moi chez mes confrères. Voilà,
vous êtes chef de rubrique cinéma au Pèlerin. Quel est votre top 3 des comédies?
Alors, là aussi, je suis allée faire un petit sondage auprès de mes confrères, mais j'ai un peu mis de moi aussi.
Bah évidemment.
Tu mets une petite musique angoisse,
d'accord. Okay,
le top 3 des comédies.
De tous les temps, c'est-à-dire les comédies de tous les temps. Ah, c'est chaud.
Alors, on a beaucoup aimé Reste un peu, de Gad Elmaleh, parce qu'on a trouvé ça
dans
très fort.
Dans le top 3 des comédies de toutes, c'est super.
Ouais, comédie délicieusement spirituelle, on l'avait appelé. On a beaucoup aimé Bruce Tout-Puissant.
Ah oui,
américain.
Bruce Almighty pour les anglophones.
Et si un simple humain se substituait à Dieu, est-ce qu'il ferait mieux que lui? Bon.
Ok, non, c'est votre top 3 des comédies religieuses.
Que je comprenne.
Non, c'est trop dur.
D'accord.
Voilà.
Et le number one,
on était pour les comédies religieuses sur Reste un peu. Vraiment.
Oui. Ah d'accord, number one.
Et donc c'est quoi le numéro 3?
Coexister, on avait bien aimé.
Oui, c'était drôle.
Coexister, c'est drôle.
Oui.
D'accord, ok.
C'est subtil.
Et hors comédie, quelle serait...
Alors, hors comédie, il y avait le remake de Léon Morin Prêtre, La Confession, avec Romain Duris, qu'on avait beaucoup aimé, de Nicolas Boukrieff, qui était... La Prière, de Cédric Kahn. Et Paternel, de Ronan Tranchot. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, dont on en a beaucoup parlé dans Le Pèlerin, parce que ça ouvre un dialogue, en fait, sur la question exactement des prêtres pères.
Merci beaucoup Catherine Escrive d'être venue. Merci. Je rappelle, chef de rubrique cinéma au Pèlerin, et la religion véritable donc sujet, vous le prouvez, de comédie, mais pas uniquement de comédie au cinéma. Passer de la religion à une vision, mais quel enchaînement. Voici Daniel Mohr.
Et une vision, alors. Absolument, Nagui, vous le savez, j'ai pour mon prochain un amour plutôt modéré. En vrai, je déteste les gens. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y en a qui aiment pas les choux de Bruxelles. Moi, c'est les gens. J'ai le droit. D'ailleurs, c'est ce qui nous a rapprochés, Tanguy et moi. Au départ, on n'aurait jamais dû tomber amoureux. Et puis, un soir, on était une soirée Prozac chez Lisa Delmoitier. Oh, Morin, c'est moi que tu regardes? Mais jamais de la vie, Pastureau. T'es bien trop moche, mon pote. Ouais, t'as vu ta gueule? Va te faire retirer le cul pour pas merde. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez excitant. Connard. Fumier. Humoriste. Socialiste. La vache, je te kiffe, tu pues de la gueule. J'ai déjà couché avec des cons, mais là, c'est Noël. Bref, on s'est détesté, mais ça nous a unis pour la vie, je crois. Avec Tanguy, on a une relation vive, mais épanouissante. On est dans l'injure, dans la provocation, mais ça comble notre aversion pour l'autre. Tout en maintenant, le dialogue, elle est là, mes visions, mon Nagui. Claro que si, meine kleine Kiki. Soyons orduriers, détestons les gens, soyons mal élevés, soyons râleurs. Ça mettra du piment dans nos vies qui, on peut le dire, sont plutôt ternes. Hein. On est poli toute la journée, mais c'est par réflexe, on n'en pense pas un mot.
Oh, la boulangère, donne-moi une de tes baguettes merdiques, là. Elle est trop bonne pour toi, ma baguette, pauvre con. Je donne, crevure, j'ai pas que ça à foutre. Ça fait 1,30€. Voleuse, bonne journée, toi-même. Voilà, j'ai ma baguette. Mmh. Elle a fait sa vente. Mmh. On s'est lâché. Ça nous a fait un bien fou. Vous voyez, Nagui, c'est violent. Mais au final, ça défoule, ça fouette le sang et tout le monde est content. Voilà, c'est ma vision pour une vie plus équilibrée. Enfin, équilibrée, je sais pas si c'est le mot juste. Alors, bien sûr, je peux me tromper.
Non, pas toi.
C'est pas le toi.
Mais ça m'étonnerait.
Merci, Daniel Morin. Un film de merde va sortir donc au cinéma.
Je sais pas si c'est une super promo. Finalement, ouais.
Je sais pas, j'essaie d'écouter mon pote.
Bah, bien sûr.
Mais c'est très bien.
C'est votre
grosse bouse.
Neuilly Poissy au cinéma ce 8 mai prochain. Tanguy, de quoi vas-tu parler dans la prochaine demi-heure?
Je vais parler de massage parce qu'on est tellement entendu. Ouais. Massage royal, massage tantrique, massage chinois. Un salon vient de s'ouvrir à côté de la maison de la radio. J'ai eu le carton d'invitation.
Oh, file, file, file. Bande originale, Grilla, Cadeau Boudavi, Lisa Delmoitier, Mélodie Fontaine, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Lisa.
Et nos invités, Mélanie Bernier et Max Boublil.
Bravo. Merci. Bravo, bravo.
Au cinéma, entouré de Claudia Tagbo, de Steve Tienche, de Malik Amraoui, de Gérard Darmon et Gérard Jugnot. Entre autres, le casting est long, je vous l'ai déjà donné tout à l'heure, mais faites-moi confiance, ça joue grave et c'est extrêmement drôle. Tous les clichés sont attaqués. Il y a la religion, évidemment, il y a les rapports homme-femme, il y a la perversion de l'argent, il y a même des bagarres avec un nain. Alors, quand je dis
ça veut rien dire.
Non mais c'est ça.
Ouais,
l'acheter. Tu vas quand même pas te battre avec un nain, si tu dis. Mais
il y va quoi.
Il y va. Ouais. Non, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que
là,
c'est le côté
de
nos limites.
Ouais,
voilà.
Ouais. Après, on se permet ça. Le blasphème, ils se mettaient en limite le blasphème, évidemment. Ils ont écrit à trois mains avec Walid Afkir, John Elijam et Greg Boudboul. Donc, il y a les trois qui écrivaient chacun un peu leur partie. Donc, vraiment, mais il s'est mis en limite le réalisateur. Il voulait pas que ça soit blasphématoire et pas blessant. Voilà. Mais après, on rit un peu de tout.
Absolument. Neuilly Poissy au cinéma le 8 mai. On en parle jusqu'à 12h30 avec nos invités. Voici Tanguy Pastureau.
Hier après l'émission, je sors de la radio, les vigiles me font une haie d'honneur, je leur dis arrêtez, ils me répondent oui mais enfin on a écouté la chronique, vous êtes trop fort. Et moi la routine ça me tue, le succès, l'argent, les fans, ça va deux minutes mais ensuite tu t'ennuies. La 20e fois que tu fraudes le fisc, tu tournes en rond, me disiez-vous Nagui tout à l'heure dans l'ascenseur. Tandis que les autres personnes présentes regardaient vos chaussures en disant je comprends pas le délire. Donc je me dis, ce qu'il me faudrait c'est un truc un peu sulfureux qui me sorte du quotidien. Mais quoi, le bondage, non, je déteste être ligoté, je suis végétarien donc ressembler à un gigot, ça me tente pas. Le vote à gauche, non, tout le monde fait ça ici et j'ai jamais vu aussi peu de gens épanouis. Et là, je m'approche de mon scooter, cet engin qui me permet de voler d'un rendez-vous où on me dit ça va pas être possible, un rendez-vous où on me dit personne ici croit à ce projet. Et je constate que coincé dans la selle, il y a un petit carton publicitaire. Je le retire, c'est pour Tenten, un salon de massage du quartier. C'est entre 99 et Double 11, quoi. Hein, là, je me dis pourquoi pas un massage. C'est un peu chaud, un peu sulfureux, mais il y a un hic, c'est que je suis pas tactile. Pas du tout, même. Tellement pas que sous la douche, je me recouvre de gel douche et je me frotte contre le carrelage mural pour étaler. Ce qui fait que j'ai développé une forte intimité avec ce carrelage. Je le tutoie, d'ailleurs. Hein, mon psy m'a dit qu'il n'y avait pas de souci avec ça, tout en composant un numéro qui a fait que 5 minutes plus tard, des gens sont venus me chercher. Et bon, je suis pas contre les thalasso, mais là, les jets d'eau étaient un peu forts. Bref, je regarde les autres scooters, eux aussi ont le carton publicitaire. Donc je me dis, si j'y vais, en plus je vais me faire masser à côté d'autres gens de Radio France. Si c'est pour causer philosophe de la Grèce antique avec Adel Von Rett en serviette. Je veux dire, tu parles d'une détente, quoi. Et là, je regarde de nouveau le carton, il y a une photo dessus. Celle d'une jeune femme asiatique prise de trois quarts, mais qui tourne la tête vers l'appareil en coulant un regard plus tentant qu'un buffet de petit-déj en hôtel club, quand le groupe d'Américains qu'il y a dans l'hôtel n'est pas encore descendu tout bouffé. J'observe cette femme, elle a l'air heureuse, zen. On dirait Marine Le Pen qui, à chaque attaque au couteau, observe la code du RN montée mécaniquement. Je me dis, est-ce une cliente, auquel cas le massage doit faire beaucoup de bien. Ou une masseuse, auquel cas elle adore son job. Et moi, j'ai pas l'habitude. Parce que quand j'arrive ici, je vois Daniel en train de bouffer sa barbe, et Lisa Delmoitier moitié en pleurs à l'idée d'avoir un jour à revenir en Belgique. Cette dame en photo est une énigme. Et la sensualité qui se dégage de son être, un leurre. Parce que je connais la réalité. C'est qu'en entrant, il y aura un mec à la peau grasse qui va te plaquer contre une table de massage et t'écraser le corps en criant « c'est bien comme ça ». Et comme dans nos têtes de racistes, on se dit que tous les Asiatiques pratiquent le kung-fu. On répond « c'est vraiment nickel hein, ». Alors que le mec appuie tellement qu'on a un rein qui a giclé de notre bide et est parti s'écraser sur le mur, un poster de la baie d'un œil. En fait, ce que fait Tenten Massage, c'est ce qu'on fait depuis toujours, utiliser l'image de la femme pour attirer les bons hommes. Madame Tenten, elle semble nous dire « mes mains, mon petit coco, sont la seule autre voie vers le paradis avec le fait de se prendre un bus ». Ça me rappelle les boîtes de nuit, vous savez, quand j'étais jeune, qui faisaient entrée gratuite pour les filles. Elles trouvaient ça super, mais en fait, elles étaient là-bas. Et nous, on payait 15 balles juste pour pouvoir être avec elles. Jamais un homme n'est allé en boîte pour danser. Ça n'existe pas. Les hommes détestent danser. Camille Combal sur Danse avec les Stars, entre chaque salsa, il part gerber dans sa loge. D'accord ? On y allait pour les filles. Le funk, ça a toujours été un prétexte. Le funk, c'est l'histoire de toutes les relations sexuelles qui ne sont pas déroulées. Music and Nights, ta gueule. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Et moi, tout ça, c'est fini. C'est pas avec une photo de jeune femme qu'on va m'arnaquer. Pas moi, Madame Tenten, que je me suis dit. Puis j'ai retourné le carton. Et là, il y a la liste des massages. Alors, il y a le chinois, 50 euros l'heure. Le thaïlandais, 60 euros. Les chinois sont toujours moins chers. Oui. Le japonais, 60 euros. Ça doit être un massage formidable parce que les japonais, professionnellement, se mettent une pression folle. Hein. Il y en a qui se suicident après avoir raté un PowerPoint. Hein, nous, on a Bruno Le Maire qui a coulé le budget de la France et qui se dit non, je suis au top. Voilà. Bon. Il y a le massage indien. Il est précisé entre parenthèses, huile chaude. Alors, j'espère pas trop chaude parce qu'il y a des soldats au Moyen-Âge, hein, partis à l'assaut d'un château fort, bon, qui ont vécu ça, ils sont décédés. L'Indien, c'est plus cher, 65 euros. Ah oui. Bah, il faut faire chauffer l'huile, bon, dépense d'énergie. Peut-être que pour 50 euros, on a de l'huile froide, je sais pas. Ou pour 30 euros, juste du vinaigre et du sel. Enfin, bon. Je continue ma lecture du carton. Le massage tantrique, c'est 75 euros. Et là, je me dis tantrique, le terme est tendancieux. Et puis, je le connais pas trop. Je regarde sur le net, je vérifie. Il s'agit d'un massage des pieds, du ventre, du dos, des parties génitales sans différenciation. Après, je suis pas expert, mais si on est déjà tendu des parties génitales, je suis pas persuadé que se les faire masser va les détendre, franchement. Enfin, non, mais le massage tantrique, c'est vivre le moment sans l'érotiser. Ce qui est pas simple quand la personne vous masse à cet endroit-là. Hein, ou alors il faut se dire, il s'agit de mon coude. C'est mon coude. Je veux dire, par rapport au massage chinois, le tantrique est à 25 euros de plus à l'heure. Ça fait 12,50 euros le testicule. Et c'est assez cher pour ces tout petits trucs-là. Hein, je veux dire, c'est pas en leur donnant une valeur marchande qu'on va faire tomber le patriarcat. Voilà, c'est que mon avis. Hein. Bon, sinon 120 euros le massage à quatre mains, hein, ce qui signifie que Madame Tenten a soit une amie, soit une malformation. Bon, tout ça pour vous dire que Madame Tenten ne m'a pas eu avec son regard coulé là et son sourire mutin.
Si,
et pourtant, je suis assez tenté par le massage royal à 130 euros. Si ça fait comme le couscous, hein, tu te retrouves avec sur toi de l'agneau et du poulet, c'est quand même pas mal. Ça doit ressembler à un spectacle des Baudins, quoi. Bon, allez, je voulais tester. Je vous laisse tester Tenten.
Non, vas-y. Moi,
franchement, je suis pas tactile.
Non, vas-y, Tanguy. Vas-y, raconte-nous.
Ouais, très envie d'y aller.
À quelle heure il va?
À quelle heure va chez Tenten?
Non, il faut qu'il y en ait un qui aille, quoi. Ce serait trop drôle.
Ce sera Daniel.
Ok. Et le 3 octobre prochain au théâtre Tristan Bernard, c'est le nouveau spectacle de Tanguy Pastureau.
Très bien. Neuilly-Poissy, c'est au cinéma avec cette musique, entre autres.
C'est la musique de fin, ça.
Ouais.
C'est vrai. À chaque fois, je me moque du rien. Je dis à la fin, t'as mis une musique, on dirait un jeu de TF1.
Alors, moi, je pensais plus à un Loft Story.
Oui, un vieux Loft Story, exactement.
Exactement.
Attends, oui. bouge pas.
Ils sont deux.
24 caméras les observent.
C'est ça, exactement.
Avec des secrets.
Michal, Steven, Julianne.
Alors, c'est quoi? C'est quand ça? C'est encore Diego?
Non, c'est quand ils rentrent, c'est quand
ça
se
c'est
retrouve.
Lisa et Daniel.
Ah, c'est Lisa et Daniel, c'est le thème de la retrouvaille. La retrouvaille, ça fait vraiment pas cool.
L'entraînement, c'était ça.
Ça, j'adore.
Ah oui, c'est bien ça.
J'ai blâme.
C'est un genre de 113 un peu.
Neuilly, Poissy, Mélanie Vernier, Max Boublil à l'affiche de cette comédie, première comédie de Grégory Boutboul au cinéma le 8 mai. D'autres événements culturels,
oui. On cherche un film. Pendant son tournage, l'équipe a été droguée à son insu. Le réalisateur a même souffert.
Les Bronzés 3.
Film tourné en 97.
Bah, Titanic.
Absolument.
Ah, ouais.
Quoi Titanic, explication.
Je sais tout sur tout.
Bah, raconte.
Non, non, mais j'ai 97, ça tombait dans les dates. Ouais. Je me suis dit pourquoi pas. Intoxication alimentaire.
Alors, on sait pas le fin mot de l'histoire. Ils ont soupçonné un temps les palourdes, les moules ingérées.
Bah oui.
Ils ont soupçonné un temps un membre de l'équipe qui aurait pu droguer les 80 personnes qui ont été. Certaines ont été hospitalisées quand même. Ah, alors, ouais. L'idée, c'est qu'ils ont été intoxiqués avec une sorte de psychotrope hallucinogène. Ce qui fait qu'attention, le spectacle devait être absolument fou. Il y avait des gens qui étaient pris de nausées, de vomissements. À côté, il y en a d'autres qui étaient en fou rire, qui faisaient la chenille. Donc tout le monde était complètement défoncé. James Cameron.
On
ne
voit
fait...
pas ça dans le film.
Non. Normalement, ça, j'appelle ça une bonne soirée, moi.
En même temps, DiCaprio, il ne se bat pas trop pour rester sur la planche non plus. On voit qu'il n'est pas bien.
Alors, Leonardo et Kate n'étaient pas là ce jour-là au tournage.
Ils avaient un room service.
C'était pas des scènes où ils étaient présents, mais James Cameron s'est fait enfoncer un stylo dans le visage et il était en train de saigner et de rire au moment où... donc ça a ri, ça a pleuré, ça
mais
a vomi.
Comment on sait ça?
Pardon?
Comment on le sait aujourd'hui seulement?
C'est Madame Temtem. On ne sait pas avant.
C'est Madame Temtem.
Mais pourquoi vous nous racontez ça?
C'est James Cameron qui l'a avoué ou c'est...
C'est James Cameron qui l'a raconté au moment où, tu sais, il a commencé à livrer des anecdotes de tournage.
Ah, d'accord.
Ouais, il a retrouvé le stylo la semaine dernière.
Ça joue droit.
Je vais vous demander à chacun un souvenir d'un tournage qui est parti un peu en vrille ou qui a un peu mal tourné. Dans la joie ou moins dans la joie?
T'as quoi, toi?
Je sais pas, j'ai un souvenir d'un film de Tony Marshall avec Nathalie Baye et Édouard Baird, et c'était vraiment... très très compliqué. À la fin, je crois qu'il y a même un décor qui a brûlé ou qui a été inondé. Enfin, franchement, ce tournage c'était galère sur galère sur galère.
Comment jouer? Mais la question est valable pour les deux. Comment jouer quand on n'aime pas son partenaire? Comment faire? Comment se
forcer? Ça peut arriver.
Ça nous arrive tous les jours.
C'est comme les gens qui bossent avec un collègue. C'est ce que je dis. Oui, mais c'est compliqué.
Sauf que au cinéma, il y a des scènes où on s'embrasse.
Mais parfois, ça fait des super amants. Deux personnes qui se détestent, ça va faire un truc. Ça va créer une tension qui fait que tu dis ah putain, les deux, on adore les voir ensemble.
Moi, je trouve qu'au final, parfois. Et parfois c'est pas parce qu'il y a une alchimie de ouf qu'elle ne se passe pas à l'image, et à l'inverse parfois sur les tournages il y a une alchimie etc. et qui pour autant ne se retrouve pas à l'image. Je trouve que ça veut, en fait c'est assez étonnant, même parfois j'ai parfois tourné avec des acteurs je trouvais pas très bons sur le plateau et une fois montés ils sont exceptionnels, et à l'inverse
le film
non l'acteur
Oui. voilà. Et donc, à l'inverse, des comédiens où c'était un peu la coqueluche sur le tournage, on disait, oh là là, il est génial. Et une fois que le film
est monté,
j'osais même plus dire le mot, du coup, en fait, il n'y a pas de présence.
Alors qu'au théâtre, c'est totalement autre chose.
Ah bah ouais, mais au théâtre, c'est direct.
On ne triche pas. Leïla ?
Oui, une autre question. Oui. On parle d'une série. Une série où l'un des personnages a été tué par les scénaristes après 35 saisons.
Ah, bah ça doit être Les Feux de l'amour, un truc comme ça.
Non. C'est une série créée en 89, multi-récompensée.
Les Simpsons.
Absolument, bravo.
Ah,
c'est
bon, non ?
Bravo. 89. Par le même créateur que Futurama. Ouais. C'est le pilier de barre, Larry, qui a été tué.
Ah, je l'aimais bien, Larry, moi.
En fait, il faut tuer les gens à un moment, je pense.
Toujours à un moment, il faut tuer les gens.
Parce que ça donne lieu à une scène ensuite où Homer et un de ses camarades partent dans l'objectif d'aller disperser les cendres. Ils se rendent compte qu'il n'avait pas vraiment connu tant que ça. Donc voilà, Larry est mort.
Parce que la voix est morte. Non,
c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Je me suis demandé.
Alors, peut-être que c'est lié à ça, mais en tout cas, il est mort. Ce personnage-là est mort dans Les Simpsons. C'est quoi votre série qui a bercé votre adolescence et âge adulte?
J'adore Sous le Soleil.
C'est vrai, tu regardais Sous le Soleil. Tu m'as pas vu dans Sous le Soleil.
Sous le Soleil, j'ai regardé énorme.
C'est vrai.
Moi aussi.
Toi
aussi. Ah bah oui.
Tu regardais Sous le Soleil.
Mais moi je suis allé draguer ma femme.
Ah mais oui, c'est vrai.
C'est pour ça que tu regardes.
Mais oui.
Tu m'étonnes.
C'était un vivier d'acteurs finalement.
De bons acteurs.
Moi j'ai dragué quelqu'un sur Derrick, on n'a pas eu le droit.
Un néo-nazi,
un peu direct.
Non mais nous c'est quand même très Urgence, Melrose Place, Beverly Hills, Hartley Cœur à Vif. Enfin, moi j'ai été baignée
les années collège.
Non, mais il y avait.
Non, les années collège.
Il a 75 ans.
Les années collège, non.
Attends, mais il y avait
Thierry
Lafond. Il y avait Will Smith dans.
Non, le Prince de Bel-Air.
Moi, j'ai adoré le Prince de Bel-Air. Ah, voilà, Prince de Bel-Air, c'est mon enfance. Prince de Bel-Air, j'aimais trop. Il était trop cool.
Et Brad Pitt aussi a fait des séries comme ça, des sitcoms.
Ah bon ?
Il n'est pas apparu dans Friends à un moment, Brad Pitt.
Si, mais ça, c'est un guest. C'est pas pareil.
Ça, c'était un guest.
Friends, énorme série.
Friends.
Mais moi, Johnny Depp, je sais plus, il y en avait un des deux qui avait été dans une sitcom.
Ah, c'était trop bien.
C'est Johnny Depp.
21 Jump Street. C'était trop bien, 21 Jump Street.
Donc, on avait passé
Et Leonardo DiCaprio a commencé dans quoi de neuf, docteur ?
Exact, exact.
Mais non.
Exact.
Exact. 11 ou 12 ans, ouais.
Non, mais ce qui me rassure, c'est qu'on a passé des heures et des heures devant la télévision. Oui. Et quand on incrimine les mômes maintenant, parce qu'ils passent beaucoup de temps devant un écran, on est un peu.
Ouais, surtout quand on incrimine. Ce que je voulais dire, c'est ces séries qui sont souvent décriées comme étant mal jouées, justement mal interprétées. Il y avait des castings de ouf.
Bah oui.
Je
regarde.
Je pense aussi à Laurent.
J'en suis la preuve vivante.
Laurent Lafitte, qui était dans Casablanca et qui était à la Comédie Française. Donc, ça ne veut rien dire.
Non, mais les débuts de chacun, c'est ça qui est génial aussi dans une carrière. C'est qu'il y a, c'est vraiment un métier où il y a zéro loi.
Bah, Guillaume Canet a commencé en faisant de la pub pour Hollywood Chewing Gum, me semble-t-il, les premiers tournages qu'il avait fait aussi.
Travailler en vrai, donc comme on peut et avec les clés d'entrée qu'on a.
Absolument. On vous retrouvera pour parler de l'avenir, Mélanie Bernier, dans il faut dire burn-out ou burn-out
Burn-out. J'ai pas encore demandé comment ça devait se dire. Oui, c'est une série.
Manu Payet et Guillaume Labbé.
Ah, vous dites Payet, vous ?
Ouais, bah oui, il veut ça.
Ça se dit comme ça, surtout.
Ah oui, je ne savais pas, moi je disais...
Par contre, on dit Guillaume Labbé, pas la bête.
Oh, ça dépend.
Ouais, il y a Guillaume Labbé, Manu Payet, Antoine Louis, Vincent... Payet, oh là là, pardon. Vincent Hénène, enfin, Ariane Mourier, tout ça. C'est une série réalisée par Noémie Saglio et Olivier Rosenberg pour Netflix. Mais ça, c'est, à mon avis, d'ici un an.
Et ah bon ?
Ouais.
D'accord,
ok. Et j'ai fait une autre série aussi avec Didier Bourdon. Que j'adore.
Daron,
ouais, et qui va, je pense, à l'automne prochain.
Vous êtes quel personnage, vous ?
Moi, je joue une avocate, c'est un cabinet d'avocats, et on va découvrir que j'ai un lien de parenté avec Didier Bourdon, et c'est chien-chat, amourenne, notre relation.
Très bien. Quant à vous, Max Boublil, une situation délicate
reprend
des nouveautés, exactement.
Pour la 50e année.
À la rentrée. Non, mais ça fait combien de représentations?
C'est trop. Mais c'est une bonne nouvelle. S'il pouvait, il pourrait nous faire pendant 10 ans. Il voulait qu'on signe encore 2 ans et demi. On a dit, on va faire d'autres trucs, les gars.
Le nouveau Boeing.
Ah ouais, c'est vraiment Boeing.
Non, mais c'est un plaisir, j'imagine.
Avec Gérard Darmon et Clotilde Courau, c'est merveilleux, quoi. C'est surtout qu'on est devenu une bande de copains. Et vraiment, moi, être face à Gérard, j'étais avec Chabat dans Les Gamins. Là, je suis face à Gérard. Au théâtre, je me régale. Et on va la jouer jusqu'à ce qu'on meure tous sur scène.
Et vous retrouvez Gérard Darmon avec Chantal Lobby dans Les Cadeaux.
Exact. Qui sort au mois de décembre.
C'est ma Chanchan, je l'embrasse. Je l'aime trop, évidemment.
Ouais,
évidemment. Alors, quel est ce film, Les Cadeaux, de Raphaël Moussafir?
C'est un film qui se passe.
Ma phrase, okay.
Pardon.
Ouais,
c'est tendu.
Christophe Offenstein. Donc, c'est un film qui se passe pendant Noël et qui va sortir au moment de Noël. C'est très mal résumé.
C'est super.
Voilà, c'est un film où c'est une famille qui se retrouve autour des cadeaux de Noël, une famille un peu dysfonctionnelle, et il y a des enfants qui sont tous partis dans des voies un peu différentes. Camille Lelouch. Je me remets ce film en tête. Voilà.
Ça va sortir, à mon avis, au moment de Noël. Donc,
ça va sortir au moment de Noël.
T'as le temps de t'entraîner pour la promo.
Ah oui, parce que là...
Bon, j'ai pas celui-là dans la tête.
Okay, alors, revenons à Neuilly-Poissy. Si vous deviez faire le pitch, Mélanie Bernier, comment diriez-vous à des amis, à des copains, il faut y aller parce que...
Parce que d'abord, c'est un film drôle, c'est un film assez réjouissant, c'est un film qui traite de l'actualité, mais avec un regard plutôt ludique et assez émouvant aussi. Et ce film, il traite... En fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il n'est pas moralisateur. C'est-à-dire que même si il parle de fraternité, même si il parle
Il encourage les communautés à se retrouver entre elles aussi, quand même.
Mais complètement. Donc il y a des messages très forts, très beaux, etc. Mais il ne vous fait pas la leçon de « il faut tous qu'on s'aime », alors qu'en fait, c'est ce que raconte aussi le film, et, mais assez joliment et assez finement, je trouve. Donc, voilà.
Max Boublil, vous, vous diriez quoi?
Moi, je dirais exactement pareil.
Non, fainéant, c'est pas beau.
Moi, je vais vous dire un truc, ce qui est très beau. Déjà, on fait les avant-premières, ça rigole beaucoup, et vraiment, les gens ressortent tous avec ce truc. Alors, je sais, quand tu le dis, ça fait un peu Miss France.
Vas-y.
Mais il y a un truc de fraternité, de bande de potes, qu'on soit juif, rebeu, catholique, et qui fonctionne dans ce film, et qui se sent. Et vraiment, les gens sont touchés, parce qu'on l'a tourné avant les événements du 7 octobre, et ça a pris un écho, là. Et vraiment, dans les salles, les gens nous disent, ça nous fait du bien, c'est une boule d'oxygène, ils rigolent. Et ce message, c'est, quand tu le dis, il est simpliste, mais de fraternité, il fait du bien, quoi.
Mais vous avez raison sur la vanne Miss France, sur le au moment des attentats du mois d'octobre et de qualifier donc le Hamas de terroriste, j'avais fait un message sur les réseaux sociaux et puis peu de temps après, quand il y a eu des drames sur les enfants palestiniens, j'en ai fait un autre sur les enfants palestiniens et puis on m'a dit ouais quoi, tu veux être Miss France, choisis ton camp.
C'est ça qui est
fou. C'est l'ère du temps, c'est, on peut pas dire.
La nuance n'existe pas.
On peut pas dire d'un côté libérer les otages et faisons la paix et puis protégeons les enfants palestiniens.
Mais bien sûr, il faut le dire.
Tous un par un pour qui on est.
Ça va être... Non mais c'est ça.
Non mais c'est pas un match de foot quoi. Mais
on a l'impression aussi.
Le tribunal populaire
sur les réseaux sociaux, en tout cas,
qui est pas le monde.
Oui, mais c'est pour ça. Je crois que les gens sont beaucoup plus mesurés que ça en réalité.
Mais j'imagine, et puisque justement à l'intérieur, dans cette espèce de mise en abîme dans le film, la réflexion est souvent fait sur est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est pas raciste, la question s'est beaucoup posée. Même pour vous, en lecture, la première fois que vous avez lu, vous avez dit, waouh, c'est chaud cette vanne, non?
Ouais, c'est chaud, mais en même temps, c'est aussi un peu... Ah, franchement, c'est un peu vrai aussi, tout ce que raconte ce film dans les rapports, c'est ce que vous êtes en train de dire, quoi. C'est que tout le monde doit tellement s'affirmer, parfois avoir des convictions sur tout le temps.
Choisir un camp,
qu'il y a quelque chose... Moi, c'est ce que je vous disais, je trouvais que c'était assez audacieux et j'ai pas eu le sentiment de me dire, oh, ça pas encore ça. Vous voyez que j'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu, ce film. C'est-à-dire que même s'il traite d'un sujet dont on parle tous beaucoup, on est tous très concernés, etc., malgré tout, la prison, en plus en comédie, etc., j'avais pas l'impression de voir un énième sujet film.
Non, mais il y a tous les clichés, entre guillemets, y compris, vous l'avez dit tout à l'heure, le cliché de la famille blindée qui n'éduque même pas directement son enfant, mais qui a du personnel pour s'occuper de l'enfant, des nounous plus ou moins déclarés ou pas pour s'occuper de l'enfant. Et qui ne s'intéresse qu'à aller chez l'esthéticienne ou lui aller chercher du liquide et du cash dans son usine à cash.
La restauration, elle c'est bien qu'il soit caricatural. Le mec arrive même plus à parler. C'est bien qu'il soit caricatural, ce type-là, parce que justement, on est au début, en vrai, on est un peu content quand il se fait démonter la gueule.
Ouais.
Parce que c'est un petit con, parce qu'il est outrancier, parce qu'il ouvre sa gueule, parce que c'est un petit gars de Neuilly, on l'en connaît, et qui parle mal et tout, et il va descendre de très haut. Et donc, on est un peu content au début pour lui. Et c'est vrai qu'on a tous des clichés les uns sur les autres et qu'au début, il y a des caricatures, mais on en joue.
Et puis nous-mêmes, parfois, on peut tous être aussi une caricature nous-mêmes.
Évidemment.
Je ne sais pas, moi, par exemple, pour mes amis d'enfance ou peut-être certains membres de ma famille, je peux être la parisienne, la comédienne. Je veux dire, on est tous à un endroit dans nos vies. Donc,
alors, et heureusement qu'on peut rire. Super, hein.
Alors, si vous voulez découvrir Mélanie Bernier sous un autre jour, samedi soir sur France 2, Julia Vignali et Max Boublil ont participé aux côtés de Kinvey, Virginie Hoc, Agustine, Galiana et Magali Ripoll à une émission de Julia Vignali que j'ai vue puisque je la produis, et j'ai rarement vu quelqu'un qui est tellement de mauvaise foi dans un jeu, mais c'est à pleurer de rire, Mélanie, comme vous êtes. À pleurer.
Je suis vraiment partagée parce que d'abord j'ai honte, donc je pense que je ne vais pas regarder l'émission parce que je suis sortie de cette émission en oubliant à un moment donné que j'étais filmée. Et du coup je suis vraiment...
Vous êtes lâchée. C'est tellement drôle. Tellement drôle.
À quel point le jeu me rend folle, mais parce que pour moi ce jeu a été... de l'injustice.
N'en dites pas plus. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Désolé pour tous les fans de Lisa Delmoitier qui, après la chronique de ce matin, nous ont appelé pour savoir quand commençait son spectacle en duo avec elle et son anus. Alors les amis, c'est pas prévu pour l'instant, mais l'idée fait son chemin. Je vois ça dans le regard de notre chroniqueuse dépressive. Désolé pour tous nos auditeurs amis, taulards, qui ne se sont pas reconnus dans la description faite par Max Boublil. D'ailleurs, ils sont quelques quelques-uns à vous inviter. Max, une invitation pour un petit séjour initiation et sanitaire à Fleury-Mérogis. 15 jours en totale immersion. Vous répondez quand vous voulez.
Quartier VIP.
Désolé pour tous les amateurs d'alcool au travail qui, en écoutant notre intervenante journaliste Catherine Escrive, se sont dit « Ah bah ça y est, on a le droit de picoler au boulot. La fille, elle demande un verre de piquant en pleine émission. C'est gagné. » Et puis, pour Madame Boudadi, on est content. Elle doit se sentir moins seule.
Mmh. Merci Mélanie Bernier. Merci, merci Max Boublil. Sorti le 8 mai au merci. Cinéma Neuilly-Poissy. Demain, Grégoire Delacour sera notre invité pour la liste 2. Mes envies, son nouveau roman, la suite donc du premier énorme succès d'il y a une dizaine, douzaine d'années. Bonne journée sur Inter.